toi.
Oui.
Pourquoi ce choix?
Par facilité, parce que tu m'as gentiment proposé et que j'ai envie de parler de mon travail qui est très peu connu pour le moment.
On va y venir. Est-ce que c'est, mais avant, est-ce que c'est depuis ici, depuis chez toi que tu travailles?
Oui, en grande partie, je prépare tous mes contenus ici et après, je vadrouille à gauche, à droite, pour aller à la rencontre des parents, des familles ou des professionnels.
Alors justement, Mathilde, tu es consultante en santé sexuelle infantile 0-12 ans. Est-ce que tu peux me présenter ton métier?
Oui, alors déjà de base, je suis éducatrice de jeunes enfants et donc j'ai complété cette formation avec une formation de consultante en santé sexuelle infantile. Donc je suis spécialisée sur l'éducation affective, relationnelle et sexuelle des enfants de moins de 12 ans. 12 ans parce que c'est approximativement l'âge de la puberté. Et puis, je fais aussi de la prévention contre les violences sexuelles sur les mineurs.
D'accord.
Donc, mon travail consiste à accompagner des familles à travers des ateliers parents-enfants, par exemple, des cafés des parents, des conférences, des choses comme ça. Et puis aussi accompagner les professionnels qui sont souvent assez démunis sur ces questions, en fait, d'éducation sexuelle. Ça peut être tous les professionnels qui sont en lien avec des enfants, en fait.
Donc, ça peut être à la fois des éducateurs et éducatrices,
ouais,
comme toi tu as été.
Oui.
Ça peut être des animateurs, des animatrices.
Oui, c'est ça.
Des enseignants,
enseignantes. Oui, ça peut. Ouais. Ça peut être des TISF, ça peut être dans le cadre de la protection de l'enfance. Ça peut être, oui, c'est ça, des éducateurs, des animateurs de périscolaires.
Ouais.
Aussi tout ce qui est professionnel de la petite enfance, qui travaille en crèche, les assistantes maternelles, voilà.
Ça touche un public très large.
Très large, ouais.
Mais alors, c'est quoi ? Être consultante en santé sexuelle infantile, ça consiste en quoi?
Alors, y a déjà une grande confusion, en fait, quand on parle d'éducation sexuelle avec les enfants. Une confusion de la part du grand public qui s'imagine qu'on va parler de sexualité comme nous, les adultes, on l'entend.
Alors que pas du tout.
Alors que pas du tout. Je ne fais pas de cours de Kama Sutra, je n'apprends pas aux enfants à se masturber ou des choses comme ça. Bien sûr, ça paraît évident.
Ça paraît évident, mais,
mais ça ne l'est pas toujours. Moi, ce que je vais faire, c'est plutôt parler avec les enfants du corps, du consentement, la notion de consentement dès la toute petite enfance, des limites, et puis ben des endroits qu'on n'a pas droit de toucher ou qu'il est interdit que quelqu'un d'autre touche. Ça va passer par tout ça déjà, puis après ça va être bah comment on fait les bébés, savoir trouver les bons mots, et puis aujourd'hui, on est quand même confronté à beaucoup de situations de jeux de découverte entre enfants ou d'agressions sexuelles entre enfants, qui sont très fréquentes, notamment dans les écoles. Et donc, on va m'appeler pour savoir est-ce que c'est une situation saine, problématique? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que ça nécessite un accompagnement, par exemple, thérapeutique ou pas? Et puis, pour les professionnels, qu'est-ce qu'on dit? Comment on accompagne ça? Comment on en parle aux familles, etc.
Donc, ton rôle, c'est surtout d'être là pour aider, accompagner, à mieux en parler, à mieux comprendre.
Ouais, c'est ça, relayer en fait vers d'autres professionnels si besoin, et puis partager mes connaissances sur le développement psychosexuel des enfants, parce que c'est tellement tabou, on n'a aucune idée de ce que c'est, donc on va me demander, mon enfant de 3 ans commence à se toucher, est-ce qu'il va devenir pervers, ou est-ce que c'est normal, voilà.
Et ça, on te le demande, tu fais des consultations ?
Et je fais aussi des consultations individuelles, souvent pour des mamans, parce que la plupart du temps, c'est des mamans qui me contactent. Donc, ça se passe en visio, à distance, sauf si c'est sur Angers, on peut se rencontrer en réel. Et puis aussi, parfois, c'est des cas de violences sexuelles qui viennent d'être découverts, alors soit, comme je disais, entre mineurs, soit au sein de la famille. Et donc, des parents qui me contactent pour connaître les démarches, par exemple, est-ce qu'il faut porter plainte, comment on fait, etc.
Vers qui on doit se tourner, etc.
Vers qui on doit se tourner, ouais. Et puis, j'ai tout un réseau de gens avec qui je travaille qui sont thérapeutes, en fait, dans le coin, qui sont spécialisés dans les violences sexuelles et vers qui je peux rediriger les familles, les professionnels.
Toi, comment on fait pour faire appel à toi?
Alors, on peut me trouver sur Internet. J'ai un site web, mathildemironi.fr. On peut me contacter via ce site. Je suis aussi assez active sur Instagram, Facebook. Donc voilà, c'est assez simple de me trouver normalement.
Et donc tu donnes tu fais des ateliers ?
Oui, je fais aussi des ateliers parents-enfants.
Comment ça se passe, ces ateliers ?
Alors, les ateliers parents-enfants, je reçois à peu près 5-6 familles. Ça peut être des enfants à partir de 3 ans. Je fais des groupes 3-5 ans, 6-8 ans, 9-10 ans à peu près. Et pendant ces ateliers, je lis un livre et puis on parle de toutes ces notions de consentement, de corps, de limites. On fait une petite activité ensemble, voilà. Et c'est aussi un moyen d'échanger avec les parents. Parce que souvent, on fait l'atelier avec les enfants. Et puis après, les parents se saisissent de ça pour discuter, pour donner toutes leurs questions. Par exemple, est-ce que je peux donner le bain à mes enfants en même temps? Est-ce que je peux me balader tout nu à la maison? Jusqu'à quel âge? Le rapport à la nudité, la pudeur, tout ça, c'est des sujets qui reviennent très souvent. Et puis, il y a aussi des parents qui ont eux-mêmes subi des violences sexuelles dans leur enfance ou dans leur vie d'adulte et qui sont très anxieux par rapport à ça et qui cherchent à protéger leur enfant ou qui savent pas s'ils doivent leur en parler, comment leur en parler. Donc ça, c'est aussi des sujets qui reviennent souvent. En fait, c'est un prisme de la parentalité dont on parle peu. Mais il y a beaucoup de femmes, notamment pendant la grossesse, pendant l'accouchement, où il y a des souvenirs traumatiques qui peuvent remonter. Et après, quand elles deviennent mères, ça peut être un vrai sujet de questionnement pour accompagner leurs enfants là-dedans. En fait.
Et toi, t'es là pour les accompagner, pour les rassurer.
C'est ça.
Pour leur donner des billes, finalement, pour en parler au mieux.
Oui, voilà. Je fais aussi des cercles, des groupes de parole de mamans, où on se retrouve, alors souvent de manière informelle, je peux me déplacer chez les gens, on fait un apéro, on invite des copines, et puis on discute ensemble de comment on parle de tous ces sujets avec nos enfants, pas forcément de violence sexuelle, mais déjà d'éducation sexuelle, qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on dit pas, à quel âge, quels mots on utilise, est-ce qu'on peut dire les vrais noms du corps? Ça, c'est une question qui est classique. Est-ce qu'il faut dire zizi aux zézettes ou est-ce qu'on peut dire pénis et vulve dès la toute petite enfance? Est-ce que ça va pas traumatiser les enfants? Est-ce que parler de tout ça avec eux, ça va pas leur mettre des idées dans la tête?
Et tu me disais en off, juste avant qu'on enregistre, vous êtes très peu nombreuses à faire ça en France. Donc, ouais. Amené à beaucoup de déplacés.
Oui.
Est-ce que tu saurais expliquer pourquoi il y a aussi peu de personnes qui font le même métier que toi? Alors qu'il y a un vrai intérêt.
Ouais, il y a un vrai besoin, mais c'est un métier qui est assez nouveau. Et puis, ça demande quand même une certaine solidité psychologique, parce que on est confronté quand même à beaucoup, beaucoup d'histoires de violences sexuelles sur les mineurs. Donc, c'est pas simple à gérer. Et puis, je sais pas, je pense que c'est un sujet qui émerge, qui est émergent, mais qui est pas encore bien présent dans notre société. On est encore très frileux de parler de tout ça et puis on n'ose pas, on sait pas comment aborder le sujet avec les professionnels, avec les parents.
Tu tiens aussi un blog, ce qui te permet de pouvoir échanger sur ces questions-là, pouvoir présenter des points que tu aurais envie d'aborder, que tu abordes peut-être dans tes conférences, tes ateliers. Comment c'est né l'idée de faire un blog
Encore une fois, c'est parce qu'il y a tellement rien sur le sujet. L'éducation sexuelle, surtout de la petite enfance, parce qu'en fait sur les ados tu vas trouver des livres, des podcasts, du contenu, mais en fait sur la petite enfance avant la puberté il y a rien. Donc moi je trouvais que c'était un bon support le blog, et puis j'aime bien écrire, et je sais que tout le monde aujourd'hui, dès que t'as une question tu vas googler le truc quoi. Donc tu vas chercher l'info d'abord sur Google, et c'est déjà l'idée de donner des premiers éléments de réflexion en fait.
La preuve en est, c'est que sur Angers, par exemple, si on cherche un accompagnement, on a la maison des ados.
Oui.
Mais on n'a pas la maison des enfants.
Non, tout à fait. Et puis on a le planning familial, mais c'est aussi pour les ados, en fait. Donc, même s'ils font aussi des choses de plus en plus pour la petite enfance, encore une fois, c'est tellement tabou comme sujet qu'on sait pas du tout vers qui se tourner.
Et heureusement, tu es là.
Et je suis là.
Justement, pour toi, ce serait quoi les points importants, de l'éducation à la vie affective et sexuelle? Pour toi, c'est quoi les choses importantes à aborder avec les enfants?
Déjà, le consentement, c'est une notion essentielle. Alors, le consentement, c'est pas forcément lié à la sexualité. C'est-à-dire que dès la toute petite enfance, on peut apprendre aux enfants que quand on fait un câlin, quand on fait un bisou, on demande, en fait, pour savoir si l'autre est ouvert à ça ou pas. Que si c'est pas oui, clairement oui, c'est non. Donc moi, c'est ce que je dis souvent aux enfants, si tu veux donner la main à ton copain qui te dit non, qu'est-ce que tu fais? Je lui donne pas. S'il te dit oui, ok. Et s'il dit rien, je lui donne pas non plus. Donc déjà, si tout le monde était au clair avec cette notion de consentement dès la toute petite enfance, c'est déjà un pas énorme. Parce que pour moi, aborder tout ça à l'adolescence, quand on se dit « tiens, mon ado, il va commencer à avoir des rapports sexuels, il va falloir que j'en parle », c'est déjà trop tard en fait. Il faut vraiment que ce soit inculqué dès la toute petite enfance. Et puis la question de limite en fait, de limite du corps, c'est-à-dire notre corps nous appartient, mais le corps des autres, c'est quelque chose d'intime, de privé, on peut pas toucher les gens comme on veut. Même si on s'aime beaucoup, on n'a pas tout le temps envie d'être touché, on a le droit de dire non. Et l'idée, c'est aussi d'apprendre aux enfants à pas obéir bêtement à l'adulte et à savoir se positionner, à valoriser le nom de l'enfant, à savoir aussi faire confiance à ses propres ressentis. Ça, c'est important d'apprendre aux enfants à se faire confiance. Si tu ressens un malaise avec quelqu'un, ben fais-toi confiance et ne reste pas.
Merci Mathilde pour ces beaux conseils.
De rien.
On va marquer Mathilde une pause musicale.
Oui.
Qu'est-ce que tu nous proposes d'écouter ?
J'ai choisi Messi de Lola Young.
Eh ben on écoute ça et on revient juste après.
I'm too fucking clean. You told me get a job and you asked for it. sur Radio G, 101.5 FM.
En compagnie de Mathilde Mironi, consultante en santé sexuelle infantile, 0-12 ans. Merci Mathilde pour ce partage.
Avec plaisir.
Mathilde, comment en es-tu arrivée à devenir consultante en santé sexuelle infantile ?
Alors, donc à la base, j'étais éducatrice de jeunes enfants et j'ai travaillé un petit peu dans la protection de l'enfance. Et puis, en fait, partout où j'ai travaillé, il y avait toujours ces questions-là d'éducation sexuelle, d'enfants qui se touchaient, d'enfants qui touchaient les autres enfants. Et en fait, je sentais un grand malaise dans les équipes et je trouvais qu'on était très, très démunis face à ça. Et puis, un jour, j'écoutais un podcast de Myriam Félix, qui donc est la première consultante en santé sexuelle en France. Et je l'ai contactée. Et puis, elle lançait justement une formation pour d'autres consultantes et je me suis inscrite. Et ça m'a tout de suite parlé. J'ai trouvé ça très, très riche, en fait. Et puis, après, ça m'a passionnée. J'ai commencé à tout lire, tout écouter, tout regarder. Voilà, ça fait rire tout le monde parce que dès qu'il y a un film qui sort sur l'inceste, je suis la première à y aller.
Donc, tu as vu le film Cassandre ?
Il était génial. J'ai vu le film Cassandre. Mais voilà, c'est devenu un truc qui me passionne. Et puis, je vois qu'il y a tellement de besoins que je me suis pas trompée, en fait.
Tu sais que t'es bien là où tu es, t'es à ta place.
Ouais, je me sens complètement en accord avec ce que je fais. Je trouve que ça a beaucoup de sens.
Et toi, c'était toujours été, tu voulais être éducatrice de jeunes enfants. Il y avait un truc, accompagner les enfants, c'était quelque chose que t'avais envie aussi dès le début.
Ouais, je voulais vraiment travailler avec les enfants. Et puis, j'ai aussi travaillé un petit peu au planning familial. Et alors, à l'époque, c'était avec les ados. Mais ça me passionnait aussi. Je trouvais que ça créait des échanges incroyables. Et puis, je te dis, au fur et à mesure de ma carrière professionnelle, je me suis dit, il y a vraiment un besoin. Mais oui, j'ai toujours voulu travailler pour protéger les enfants, en fait. Parce que les enfants sont vulnérables et qu'ils ont besoin d'adultes pour prendre soin d'eux. Ça a toujours été une envie très forte chez moi.
Et pourquoi te spécialiser juste dans le 0-12 ans et pas au-delà ? Qu'est-ce qui fait qu'il y a un arrêt, une barrière peut-être au-delà de 12 ans ?
Parce que après, à 12 ans, c'est la puberté. Et donc, hormonalement, physiquement, il y a plein de choses qui se passent. Et on passe dans une autre étape de la vie, en fait, où là, on rentre plus dans des questions de relations, de sexualité, comme nous, on l'entend, comme ce qui appartient au monde des adultes, en fait. Et comme je te disais, il y a plein de choses sur ce sujet-là. Mais avant, il n'y a pas grand-chose. Et comme moi, j'étais éducatrice de jeunes enfants, donc je travaillais toujours avec les 0-6 ans, je trouvais qu'il y avait déjà beaucoup de choses à faire dès le début. Puis, c'est vraiment l'idée que, pour moi, à l'adolescence, c'est déjà trop tard. Qu'en fait, la petite enfance, c'est essentiel de prendre soin des très jeunes enfants, sur tous les plans, parce qu'après, c'est ça qui fait le fondement de ta personne, en fait.
C'est ça qui fera ensuite le fondement de l'adolescent, puis de l'adulte.
Et de l'adulte, bien sûr. Donc, pour moi, c'est aussi une manière de faire de la prévention, de prendre les choses à la base.
C'est un peu comme, je fais un parallèle là, comme ça, mais on apprend à lire très jeune.
Oui.
Pareil, on apprend le consentement, on apprend comment se comporter, l'intimité, etc. Plus jeune, pour mieux se comporter plus tard.
Tout à fait. En fait, on a beaucoup de choses sur le développement de l'enfant. Tu vois, le développement moteur, le développement du langage, tout ça. Et on accompagne les enfants là-dedans. On leur apprend à parler, on leur apprend à marcher, on leur apprend à enlever les couches, etc. Mais on leur apprend pas le consentement, le corps, les limites avec les autres. En fait, tout ça, c'est pas inné. Si on t'a jamais dit que il fallait pas toucher les parties intimes des autres, tu peux pas le deviner, en fait. Si on t'en parle jamais, tu peux pas le savoir. Et puis, de toute façon, les enfants ont beaucoup de questions. Parce que on est des êtres sexués, on est tous avec un sexe, et il y a un moment justement où, dans le développement moteur, on va commencer à toucher son corps, et le sexe fait partie du corps, donc on va commencer à toucher, à ressentir des choses. Ça va questionner beaucoup les enfants. Puis on vit dans un monde qui est quand même hyper sexualisé. Les enfants sont confrontés à des images hyper sexualisées tout le temps, dans les publicités, dans les films, tout le temps. Ils ont des questions, et en fait, si on répond pas à leurs questions, ils vont aller chercher eux-mêmes les réponses. Et c'est là que ça peut être catastrophique. Maintenant, les chiffres disent que 50% des garçons de 10 ans ont déjà été exposés à du contenu pornographique. Donc 10 ans, c'est quand même assez jeune. En fait, c'est l'âge à peu près du premier téléphone. Donc, le porno, ça a des conséquences dramatiques parce qu'en fait, ils vont penser que c'est comme ça que ça se passe la sexualité, alors qu'ils sont confrontés à des contenus violents. Donc, si on n'accompagne pas les enfants, eh ben, ils vont aller chercher les réponses. Et toutes les études montrent que plus on parle d'éducation sexuelle aux enfants, plus l'âge du premier rapport sexuel recule. Donc, cette idée que en parlant de sexualité avec les enfants, c'est leur mettre des choses dans la tête. En fait, c'est tout le contraire. En répondant aux questions des enfants, il y a un apaisement en fait par rapport à ça, et on va pas chercher à aller plus loin. On va pas aller chercher à faire des expériences si on a des réponses à nos questions en fait.
Et du coup, comment tu analyses le fait que depuis 2001, c'est obligatoire dans la loi de faire à l'école 2 heures de cours d'éducation à la vie affective et sexuelle, et que ça a été relancé par le gouvernement, mais qu'aujourd'hui, c'est on a encore plein de polémiques. C'est censé être relancé en septembre. Et pour l'instant, moi, je suis pas très, très optimiste sur le lancement du truc.
Non.
Et sur le respect, surtout, du truc.
Non, c'est ça. En fait, depuis 2001, en effet, il doit y avoir 2 heures d'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle, de la maternelle au lycée. Sauf que, quand on a lancé cette loi, on n'a pas donné de programme. Donc, en fait, les enseignants doivent se débrouiller avec ça. Ils savent pas.
Ils sont pas formés.
Ils sont pas formés du tout.
Moi, je te le dis, j'ai été formé. En tant qu'enseignant, j'ai pas été formé à ça.
Mais non, bien sûr, ils sont pas du tout formés. Donc là, ce qui change cette année, c'est que enfin, en 2025, on sort un programme qui sera effectif à partir de septembre. Mais encore une fois, on forme pas les enseignants. Donc on leur donne un programme, comme les maths, comme tout le reste. Mais alors, j'ai entendu dire qu'il allait avoir une formation pour les enseignants, mais sur base de volontariat. Et je ne sais pas qui va donner cette formation. Je sais pas comment les enseignants vont être formés. Bah moi je suis dispo, mais voilà, j'ai un peu de doute. Et puis surtout, il y a un énorme blocage de la part des parents. Les parents ne veulent pas qu'on aille à l'école parler d'éducation sexuelle, relationnelle et affective à leurs enfants.
Qu'est-ce qui, selon toi, fait ce blocage?
Parce qu'on leur explique pas ce qui va être abordé. Donc eux, ils s'imaginent que on va et puis en plus avec les réseaux sociaux, il y a plein de rumeurs.
Oui.
Tu vois, on dit que on va mettre un enfant tout nu devant la classe pour parler d'anatomie. On va faire des cours sur les positions, la sodomie, la masturbation. Enfin, non, clairement non. Il y a aussi cette idée parce que dans l'éducation relationnelle affective et sexuelle, on parle aussi du genre, des relations garçon-fille, des stéréotypes, de l'homosexualité, alors ça dépend de l'âge des enfants, mais oui, c'est des choses qui sont abordées, et il y a plein de parents qui pensent que si on parle de transidentité, d'homosexualité avec des petits, ça va leur mettre cette idée dans la tête. Ils vont vouloir tous changer de sexe, ils vont tous vouloir devenir homosexuels, etc. Donc il y a encore ces freins-là. Bah bien sûr que non. L'idée c'est juste de dire qu'on est tous différents et que c'est pas grave, que ça existe. Et si tu veux, dans le groupe, ça va décomplexer peut-être un gamin, puis les autres ils vont avoir l'info, puis ils vont passer à autre chose, quoi.
Mais ils l'auront entendu, ils l'ont intellectualisé à minima, et ça va peut-être leur permettre de réfléchir et de pouvoir à un moment donné dire oh, non attends, là je respecte pas le consentement, ou là on respecte pas mon intimité.
En fait, c'est apprendre à vivre ensemble. Apprendre qu'on est tous différents, qu'on est tous différents, mais que pour autant on doit respecter l'individualité de chacun en fait. Que ce soit une fille, un garçon, quelqu'un qui a une sexualité différente, on parle de tout ça ouvertement avec les enfants et ils le comprennent très bien, même mieux que les adultes en fait. Mais il y a des parents en fait en Belgique qui sont un petit peu en avance par rapport à nous. Quand ils ont sorti ce programme d'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle, il y a carrément des parents qui ont brûlé des écoles. Parce qu'ils ne veulent pas que ça se fasse dans les écoles. Puis il y a aussi une autre explication. C'est que, aujourd'hui, si tu veux, dans les chiffres, on dit que 160 000 enfants sont victimes de violences sexuelles par an. Ça représente 3 enfants par classe de 30 en France. Ça veut dire
c'est
que
énorme.
Non, c'est énorme. Donc, dans chaque classe, potentiellement, il y a des enfants victimes d'agressions sexuelles. Et on sait que dans 80% des cas, ça se passe à la maison. Ça se passe au sein du foyer. Ça se passe dans le cercle familial proche. Donc forcément que ces gens-là ne veulent pas qu'on vienne parler de tout ça à leurs enfants.
Parce que eux, en fait, vus comme les agresseurs, enfin, seront nommés agresseurs.
Exactement, finalement. Que l'enfant va réaliser, ah ben, en fait, ce que je vis chez moi, c'est pas normal, et puis potentiellement dénoncer, etc. Donc pour moi, il y a aussi toute cette partie-là qui fait qu'il y a un gros blocage. Mais moi, je le vois, je n'arrive pas à aller dans les écoles. Je suis formée à intervenir auprès des enfants pour parler de tout ça. Je n'arrive pas à mettre un pied dans les écoles parce que les chefs d'établissement bloquent.
Ils ont peur de la réaction des parents.
Ils ont peur de la réaction des parents. Donc, ils me disent, sinon, vous venez, mais on ne le dit pas aux parents. Donc, moi, je trouve ça contre-productif, en fait. Mais ils disent, s'ils savent que vous venez, ils ne vont pas mettre leurs enfants à l'école. Ben, on n'est pas obligé de leur dire le jour où je viens. Mais on peut, par exemple, faire une réunion d'information en début d'année pour dire ce qui va être abordé. Et souvent, quand j'explique aux parents, ben, ça va, ils sont OK, ils sont détendus. Ah, on va juste parler de ça. Bah oui, on va parler du corps, du consentement. Ah, ok. Tu vois, il y a un apaisement. Et puis après, venir sans dire effectivement la date, ça permettrait de toucher tout le monde. En fait, aller dans les écoles, c'est essentiel parce que tout le monde va à l'école.
C'est pas juste aller dans les maisons de quartier ou juste faire des ateliers.
C'est déjà très bien.
Mais il faut aller plus loin, il faut aller dans les écoles.
Bah oui, parce que si tu veux, moi, quand je fais des ateliers parents-enfants, déjà les familles qui font la démarche de venir aux ateliers, ils sont déjà... prévenus, tu vois, ils ont déjà un intérêt. Il faut vraiment toucher un maximum de monde, en fait.
Ben on lance un appel, alors, au chef d'établissement.
Mais oui.
Faites venir Mathilde.
Mais oui, aux associations de parents d'élèves, au chef d'établissement, faites-moi venir avec plaisir.
Mathilde, dernière question. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui aurait envie de se lancer dans le même métier que toi ?
Qu'il faut déjà avoir travaillé sur soi, parce qu'on n'y va pas par hasard. Quand on travaille sur les violences sexuelles, on a probablement été touché par ça. Et si on n'a pas réglé cette partie de notre vie, ça peut avoir des impacts sur l'accompagnement qu'on donne. Donc ça, c'est vraiment important. Mais je dirais que c'est de toute façon, quand on travaille dans le social ou dans l'humain, globalement, on n'y va pas par hasard. Et c'est hyper important d'être au clair avec soi-même. Et puis, de se lancer, de se professionnaliser, de lire un maximum de choses. Et puis, moi, j'encourage les gens à vraiment se lancer parce qu'il y a beaucoup de besoins, en fait. Moi, tu le disais, je me déplace beaucoup. Comme on est très peu en France, je vais un peu partout. Mais il y a encore des besoins, quoi.
Tu peux pas aller partout.
Je peux pas aller partout. Et la prévention, ça marche quand c'est fait à grande échelle. Plus on en parle, plus on avertit les adultes, les enfants, plus c'est efficace, en fait. Et c'est vraiment le but, moi, de mon métier, c'est de protéger les enfants. Donc vraiment, j'incite tout le monde à se renseigner sur ces sujets. Et puis si vraiment vous avez une appétence pour le sujet, bah ouais, lancez-vous.
Merci Mathilde.
De rien.
Merci beaucoup Mathilde Mironi d'être venue aujourd'hui dans Rencontre.
Merci.
On te retrouve donc sur ton site internet,
ouais.
mathildemironi.fr.
Tout à fait.
Et sur Instagram, mathildemironi.
Ouais.
Voir... faire appel à toi, découvrir ce que tu fais, lire ton blog.
Oui, oui, avec plaisir. N'hésitez pas à m'envoyer des petits messages et tout.
Eh bien, et merci beaucoup d'être venu aujourd'hui.
Merci.
Et merci à vous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à partager et podcaster cette émission sur radio-g.fr ou sur Spotify. On se retrouve le jeudi 1er mai à 13h pour une nouvelle rencontre et demain à 19h pour C'est le week-end spécial Angers Geek Fest. D'ici là, portez-vous bien. Bonne semaine. Topette.
C'est tout.
Vous êtes chanteuse, chanteur, seul ou en groupe et vous voulez que votre dernière création passe à la radio ?
Alors participez à la 6e édition de Radiovision, le concours de chansons.
Rendez-vous sur radiovision.fr, mais attention, c'est jusqu'au 18 avril seulement.
Bonne chance et à bientôt pour la finale sur radiovision.fr.